Je vous propose à chacun de fermer les yeux pour commencer. Et essayez simplement de sentir la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es au milieu de nous, tu es sur nous, tu es entre nous. Merci parce que tu te meus, tu es en train de te mouvoir comme tu te mouvais au-dessus des eaux, tu es en train de le faire au-dessus de nous. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous remplis et c'est toi qui nous revêt. Et aujourd'hui, je te demande un esprit de conviction de ta sainte présence, un esprit de conviction de l'intimité qui nous est offerte en Jésus et auprès du Père. Je te demande de nous aider à comprendre au plus profond de notre être ce que tu as pour nous, ce que tu nous offres, ce que tu désires, que nous connaissions le cœur du Père, que nous connaissions le cœur de Jésus. Amen. Lorsque je préparais ma dernière prédication, celle de la fois passée, en prenant l'exemple de Méphibosheth qui mangeait chaque jour à la table du roi, j'ai été frappée, j'ai été interpellée parce que automatiquement, s'il mangeait chaque jour à la table du roi, ça voulait dire que chaque jour, il se présentait devant le roi. Ça veut dire que chaque jour, il se tenait devant le roi. Et ça m'a fait penser à quelqu'un. Ça m'a fait penser à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, quand il s'est présenté à Zacharie pour dire à Zacharie, tu vas avoir un fils, il lui a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il a dit à Zacharie, je me tiens devant Dieu. Et ce mot, je me tiens devant Dieu, ce mot en grec, c'est paristémie. C'est le même mot qui a été utilisé pour dire que Jésus a été présenté dans le temple quand il était bébé. Ce mot, paristémie, ça veut dire être placé à côté d'eux, être mis à disposition, s'offrir, mettre une personne ou quelque chose à disposition, présenter une personne, montrer, amener dans sa camaraderie ou dans son intimité, apparaître, se tenir prêt à secourir. L'ange Gabriel, quand il se tenait devant Dieu, dans la présence de Dieu, il se tenait prêt, il était là en s'offrant, mais il se tenait prêt aussi à être envoyé. Et comme il se tient prêt à être envoyé, Dieu peut l'utiliser, parce que son cœur est disposé. Jésus nous a donné un moyen tout simple, mais extrêmement puissant pour nous aider à nous tenir devant lui, pour entretenir notre intimité, notre communion avec lui, pour sceller notre relation, la Sainte Cène. Encore une fois la Sainte Cène. Devant cette table dressée, mes ennemis, ceux qui me sont externes, ils sont tenus à distance. Vous vous souvenez, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mes adversaires sont tenus au loin. Mais si, comme Méphibosheth, je suis perclus des deux pieds, que ce soit dans mon âme, que ce soit dans mon corps, si j'ai des ennemis internes, si j'ai des ennemis dans ma position sociale, dans mes émotions, il y a cette table. Il y a cette table qui tient éloignée mes adversaires. Il y a cette table qui change ma condition. Méphibosheth, il a vu sa condition de vie radicalement changer parce qu'il a été invité à la table du roi tous les jours de sa vie. Vous vous souvenez, il a dû déménager. Il a déménagé à Jérusalem pour pouvoir être à la table du roi tous les jours de sa vie. Il n'a plus été le même. Alors la Sainte Cène, je crois qu'on l'a assez dit, mais je vais le répéter encore. Ce n'est pas un repas mystique. Ce n'est pas un repas symbolique. C'est un repas spirituel. C'est un repas spirituel, mais tout simple, qu'on va prendre dans le naturel. C'est du pain, c'est juste du pain et c'est du fruit de la vigne, du jus de raisin ou bien du vin. C'est tout simple, c'est à disposition de chacun, mais c'est extrêmement puissant. Parce que ce repas spirituel, si on le prend dans une position de foi, si on le prend par notre esprit, si on comprend la dimension spirituelle, là, il prend toute sa puissance. Et c'est là que les miracles s'accomplissent. C'est là que ça ouvre une brèche dans le ciel et que la puissance du Saint-Esprit se déverse et change nos circonstances et nous transforme. Et c'est quelque chose dont on a vraiment de la peine à vivre. C'est difficile d'entrer dans une position spirituelle. Pour certains, c'est facile. Pour ceux qui ont reçu l'onction prophétique, c'est facile. Ils décident de se concentrer sur le Saint-Esprit et ça y est, ils sont dans une dimension spirituelle. Et pour d'autres, on est tellement, tellement à fonctionner avec notre tête, avec notre intelligence, que c'est difficile. Mais c'est possible et c'est accessible pour chacun. De se positionner dans la foi, dans l'esprit, c'est un entraînement. C'est du fitness spirituel et c'est surtout une décision. C'est ma décision de dire maintenant je n'écoute plus mes pensées, mais j'écoute mon esprit. Et Saint-Esprit, je décide que je crois que tu es là et je veux écouter ce que tu as à me dire. Je décide de croire que ce que dit ta parole est vrai et que ce pain est vraiment le corps de Jésus spirituellement et que ce sang, que ce jus de raisin est vraiment le sang de Jésus spirituellement et qui va avoir un effet sur moi. C'est une décision. C'est une décision tous les jours. Quand vous êtes à votre travail, dans votre famille, n'importe où, si vous voulez entendre le Saint-Esprit, il ne faut pas juste dire « j'y arrive pas » ou « je ne l'entends pas », mais « je décide ». Saint-Esprit, je décide de croire. Et ensuite, il faut décider d'être à l'écoute et de repérer tous les petits détails d'une journée pour se dire « mais ça, c'était le Saint-Esprit ». Et pour finir, le chemin se fait en nous. C'est une question de persévérance. Alors aujourd'hui, on va aborder la Sainte Cène, ce repas spirituel, sous le thème de l'Alliance. On va effleurer le sujet de l'Alliance parce que c'est tellement énorme, mais la Sainte Cène est une alliance. Alors, donc on lit dans Matthieu 26, les versets 26 à 28. « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est seulement avec la coupe que Jésus dit « Ceci est l'alliance en mon sang. » Ce n'est pas avec le pain. De tout temps, le Seigneur a fait des alliances avec son peuple. Ça commence dans l'Ancien Testament. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon la plus forte de faire une alliance, la façon la plus forte de sceller une alliance, c'est au travers du sang. Par exemple, Dieu a sacrifié des animaux pour revêtir Adam et Ève et pour les protéger. Donc, il a fallu les sacrifier, ces animaux. Et en fait, quand Dieu fait une alliance avec son peuple, c'est toujours lui l'instigateur, c'est toujours lui qui décide de faire une alliance. Ce n'est pas comme un contrat qu'on peut rompre. Une alliance, elle est perpétuelle. Une alliance, elle est éternelle. C'est simplement que si l'une des deux parties désobéit aux clauses de l'alliance, là, il y a des conséquences. Et l'une des deux parties, c'est toujours nous, parce que Dieu lui, il est fidèle. Donc, Dieu a toujours fait des alliances avec son peuple et il les a scellées d'une manière qui utilisait à chaque fois un sacrifice. Donc, un sacrifice pour protéger Adam et Ève avec des habits en peau. Ensuite, Noé, au sortir de l'arche, il a sacrifié des animaux, il a élevé un autel à l'Éternel, il a dû tuer des animaux, le sang a coulé et là Dieu a fait alliance avec lui et avec toute l'humanité. Vous pouvez lire ce passage dans Genèse 8, dans un paragraphe où Dieu dit qu'il fait son alliance avec l'humanité, il répète les mêmes phrases 7 fois. 7 fois pour dire que vraiment c'est scellé, c'est fait. Ensuite, on a Abraham aussi qui élève plusieurs autels, qui fait plusieurs sacrifices d'animaux. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Il lui a donné des promesses. Et le sang a été versé pour sceller ses promesses. Et Moïse, dans toute sa splendeur de l'histoire du peuple hébreu, c'est Moïse qui a reçu les instructions pour établir le tabernacle et tous les sacrifices d'animaux qui devaient couvrir le péché. Et dans l'Ancien Testament, on appelle l'Ancien Testament l'Ancienne Alliance. Parce que justement, c'est toute une histoire d'alliance de Dieu avec son peuple dans tout l'Ancien Testament. Et on avait donc ce sang des animaux qui couvrait les péchés, donc qui éloignait le jugement, parce que c'est toujours ce que Dieu veut, qu'on soit éloigné du jugement, qu'on soit protégé du jugement. Mais il y avait des prêtres ou sacrificateurs qui faisaient les médiateurs entre le peuple et Dieu. Parce qu'il y a un voile qui n'était encore pas déchiré entre Dieu et le peuple. Mais voilà, Jésus arrive sur terre. Jésus arrive pour se donner. Jésus s'est offert en sacrifice. J'aime beaucoup parce que, je ne l'ai pas noté là, mais si on regarde le texte originel dans le texte grec du Nouveau Testament, dans Matthieu et dans Marc, quand il dit « prenez la coupe, ceci est mon sang », en fait, il dit « ceci est mon sang de l'Alliance ». Il ne dit pas « c'est l'Alliance en mon sang ». Il dit « ceci est mon sang de l'Alliance ». Ce n'est pas mon sang d'une alliance, c'est mon sang de l'alliance. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une alliance perpétuelle entre Dieu et les hommes. Et c'est mon sang de l'alliance. C'est le sang de Jésus. En fait, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il est en train de faire une alliance entre lui-même et nous individuellement. Vous avez tous une alliance individuelle avec Jésus, avec lui-même, et pas avec des sacrifices d'animaux, ou pas avec un pasteur, avec un enseignant, un prédicateur, un prophète renommé, ou je ne sais qui. Vous avez une alliance personnelle, individuelle avec Jésus. Donc Jésus est devenu notre médiateur. Il n'y a plus d'intermédiaire. Et non seulement les péchés étaient couverts dans l'Ancien Testament, mais avec Jésus, les péchés sont ôtés et le jugement est éloigné de nous. Le sang de Jésus nous épargne. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement parce qu'on est justifié. Et c'est ce qui fait qu'on est héritier. On est héritier de la présence de Dieu éternelle. On a notre glorieuse espérance, c'est on va passer toute notre éternité avec Jésus. Là où il n'y a pas de péché, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de larmes, là où il n'y a pas de tristesse, là où tout est gloire, c'est notre glorieuse espérance à cause du sang de Jésus qui s'est répandu pour nous. Mais le sang de Jésus, il éloigne aussi le jugement des autres, le jugement d'autrui. Chaque fois que quelqu'un vous critique, invoquez le sang de Jésus sur vous. Et la critique, ce n'est pas pour vous, elle ne vous atteindra pas. Le sang de Jésus, il nous épargne, il nous protège de la maladie, des malédictions, de la pauvreté, etc. Toutes ces choses-là que ce monde déchu veut nous faire subir. Le sang de Jésus, il est individuel pour qu'on l'utilise, pour qu'on en bénéficie de manière individuelle. Le sang de Jésus nous pardonne. Chaque fois que vous savez que le Saint-Esprit vous convainc de péché, vous pouvez retourner vers Jésus, vous pouvez lui demander pardon et il vous pardonne. Ce qu'il a déjà fait, c'est qu'il vous a nettoyé de votre nature de péché, de notre nature de péché. Ça, c'est fait, mais à chaque fois, à chaque jour, il ne se lasse pas. Il est patient, il est lent à la colère, il ne se lasse pas. Alors voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous sommes complètement impliqués dans cette alliance. Jésus n'est pas venu pour faire une alliance avec lui-même. Il faut être deux, minimum, pour faire une alliance. Donc, vous êtes complètement impliqués dans cette alliance. Donc, c'est sûr que quand on prend le repas du Seigneur, nous aussi, on a quelque chose à donner à Jésus. Parce que lui, il nous donne sa bénédiction. Lui, il nous donne sa guérison. Lui, il nous donne son pardon. Mais nous, on a aussi quelque chose à lui donner. Et les premières choses qu'on lui donne, souvent, ce n'est pas très glorieux. Parce qu'on lui donne déjà nos péchés. Seigneur, pardon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je viens me présenter devant Dieu, J'ai envie de commencer par la louange. Alors déjà, je le remercie pour qui il est. Je le remercie. J'essaie d'avoir un temps de louange, mais j'ai mes péchés qui me rappellent que, mais en fait, tu n'y arrives pas. Alors, OK, Seigneur, je commence à demander pardon pour tout ce que j'ai échoué dans ma journée. Et ensuite, j'arrive à avoir un vrai temps intime avec Dieu. Donc, les premières choses que je lui donne, en général, ce n'est pas très glorieux. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas très glorieuses qu'on lui donne. C'est nos souffrances, nos échecs, nos besoins, nos problèmes, nos requêtes, nos plaintes, nos revendications, notre ras-le-bol, notre fatigue. Ah, puis celui-ci qui m'a encore énervée. Et puis, moi, enfin, je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de vous lamenter devant le Seigneur? Alain, il dit tous les jours. C'est pas faux. C'est important d'être vrai devant le Seigneur et c'est important de répandre son cœur devant le Seigneur. Mais si on s'arrête là, ça va pas. On a des choses à donner au Seigneur. Et c'est là qu'il faut qu'on prenne conscience de qui on est en tant qu'enfant de Dieu. C'est quoi mon identité d'enfant de Dieu? Et j'ai toute ma louange, j'ai toute mon adoration à présenter au Seigneur. C'est tellement important. C'est indissociable d'une vie avec Dieu, d'une vie chrétienne. C'est indissociable. Mais j'ai encore d'autres choses à donner. C'est une alliance. Dans une alliance, il faut être minimum deux. C'est une alliance de sang. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ce n'est pas noté dans la parole que Jésus est le chef, l'époux de l'Église qui est son épouse? Le mariage entre un homme et une femme, est-ce que ce n'est pas une alliance de sang par excellence? Donc quand Jésus vient faire alliance avec nous, avec son sang, c'est comme un homme et une femme qui font une alliance de sang entre eux. C'est comme les premières relations intimes d'un homme et d'une femme qui s'engagent l'un envers l'autre. Jésus veut être notre chef, notre époux, notre mari, notre protecteur. C'est quoi le rôle d'un homme dans un mariage? C'est la protection, c'est le leadership. Jésus, il veut ça pour chacun de nous, individuellement. En groupe aussi, puisqu'on est un corps, mais individuellement. Donc le mariage, c'est l'image prophétique de l'alliance de Jésus et de son épouse. Et pourquoi le sang? Dans Lévitique 17:14, il est mentionné que la vie est dans le sang. Alors là, le texte traduit par « âme », qui veut dire « vie ». Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Ce mot âme, en hébreu, c'est nefesh. Et dans nefesh, ça veut dire vie, mais c'est tout ce qui vit. C'est ce qui respire, le souffle, l'âme, l'existence, l'être intérieur, le siège des appétits, le siège des émotions. Tout ça, c'est l'âme. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est dans le sang que ça se trouve. Ce n'est pas dans le corps, dans la chair. C'est dans le sang. Donc le sang de Jésus, il a tout ça. Il a le mouvement et l'être. Il a le siège des appétits, des émotions. Il a tout ce qui fait que la vie existe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un couple marié? Qu'est-ce qui se passe? Un couple qui s'engage l'un envers l'autre et qui ont leurs premières relations intimes, scelle une alliance. Et il y a un échange de vie, il y a un échange d'âme dans le corps, ce serait difficile autrement, mais dans l'âme aussi, dans les émotions et dans l'esprit. Quand on a une alliance de sang avec une personne, on hérite d'un bagage spirituel. Ce n'est pas juste quelque chose de charnel, de corporel. Ça va bien plus loin que ça. C'est pour ça que Dieu a mis un cadre dans le mariage. Donc, quand je prends le repas du Seigneur, je ne lui donne pas seulement mes souillures, mes problèmes, mais je me donne entièrement. Je me donne au Seigneur corps, âme et esprit. Et je lui donne qui je suis. Comme je me suis donnée à mon mari, je lui donne mon caractère, je lui donne mes aspirations, mais je lui donne aussi tout ce qu'il m'a donné, toutes mes compétences, elles ne viennent pas de moi, je les ai reçues de Dieu, et c'est ce que je redonne au Seigneur. Tous les dons qu'il a déversés en moi, c'est ce que je redonne au Seigneur pour qu'il puisse les utiliser, pour qu'il puisse en faire quelque chose, pour que ça fructifie, pour que ça devienne un sujet de bénédiction. Dans l'Ancien Testament, pour ce mot alliance, ce mot relation intime entre un homme et une femme, mariée, légitime devant Dieu, c'est le mot yada qui est utilisé. Dans Genèse 4, verset 1, Adam connut sa femme, connut Ève, donc connut yada. Elle conçut et l'enfanta. Donc on comprend que ce mot yada, ça veut dire avoir des relations sexuelles, parce que si Adam il connaît Ève et puis que tout à coup elle enfante, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Pareil, Caïn connut sa femme, elle conçut, elle enfanta. Donc on comprend vraiment ce terme, on comprend à quoi il est associé. Quand le serviteur d'Isaac va chercher une jeune fille pour en faire l'épouse de son maître, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue, yada. Elle n'était pas mariée, elle n'appartenait à aucun homme. Et ce mot yada, ça veut dire connaître, mais dans le sens de apprendre à connaître. Ce n'est pas une connaissance innée, c'est une connaissance qui se travaille. Ça veut dire percevoir, trouver, discerner, vraiment apprendre par l'expérience. Et on trouve le même terme, mais en grec, ginosko, lorsque l'ange, toujours l'ange qui se tient devant Dieu et qui est envoyé pour des missions, va dire à Marie qu'elle sera enceinte. Mais Marie, elle est vierge. Et voilà ce qu'elle lui dit. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais ginosko point d'homme? Ça veut dire puisque personne n'a appris à me connaître, puisque moi je n'ai appris à connaître personne, donc je ne suis pas liée avec un homme. Donc si je n'ai pas cette relation-là, comment est-ce que ça va se faire? Il y a un autre terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler des relations sexuelles qui est beaucoup plus cru. Il est technique. Il n'est pas intime du tout. Ce mot, c'est « shakab ». « Shakab », ça veut dire « coucher ». Ça veut aussi dire être couché physiquement à l'horizontale, simplement. Mais ça veut dire coucher dans le sens avoir des relations sexuelles. Mais même selon comment est-ce qu'il a utilisé ce mot, il y a une notion de viol et de prostitution. Et on le trouve dans la Genèse. Je vais vous lire le passage. Quand les filles de Lot n'ont pas de frères, et elles se rendent compte que leur père n'aura pas de postérité. Du coup, elles imaginent un truc et voilà ce qu'elles disent. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons, Shakab, avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » C'est le mot « Shakab », ce n'est pas « yada ». Il n'y a pas de notion d'intimité, d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas la notion de se donner, de s'engager l'un envers l'autre. Mais il y a un passage beaucoup plus connu qui utilise le même terme. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha, Shakab, avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. David n'a pas connu Bathsheba. Il a couché avec elle. Il n'y a rien d'intime là-dedans. Il a répondu à une pulsion, il a répondu à un besoin qu'il a satisfait lui-même. Il n'a pas réfléchi plus loin, il ne s'est pas engagé, du moins pas à ce moment-là. Il a dû passer par un grave moment de repentance pour ensuite qu'il connaisse Bathsheba. Mais dans ce passage-là, il était complètement hors de la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'alliance de sang que Jésus nous propose. Quand un homme et une femme s'engagent et font une alliance de sang et qu'ils se connaissent, yada, ils se voient évoluer parce qu'ils se sont choisis. Ma vie est ta vie est ma vie. Je me donne à toi, tu te donnes à moi, je partage tout avec toi. Je choisis ton intérêt. Je veux que tout ce qui se passe pour toi, ce soit le meilleur. Je vais mettre tout ce que je peux pour que ta vie soit épanouie. Du moins, j'essaye. Parce qu'on est des êtres humains. Et moi, je sais que des fois, j'échoue. Mais au plus profond de mon cœur, ce que je veux, c'est que mon mari soit épanoui. Je veux le voir grandir. Et lui, c'est pareil. Alors, un couple qui vit cette alliance de sang comme Jésus la veut, ils bataillent ensemble, ils se réjouissent ensemble, ils pleurent ensemble, ils cherchent ensemble, ils grandissent ensemble. Et c'est ce que Jésus veut pour nous. dans notre relation d'intimité avec lui. C'est ce qu'il désire. Apprendre à connaître Jésus et être connu de lui. C'est vraiment ce qu'il veut pour nous. C'est vraiment son désir. C'est son fardeau. Mais pour l'un comme pour l'autre, pour le mariage, pour le repas du Seigneur, une fois dans la vie, ce n'est pas assez. Il faut y revenir. Il faut y revenir à ce repas. Et comme pour des relations intimes, ou comme pour le fait de manger un repas, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps en soi. Mais les effets durent. Quand vous quittez la Sainte Cène, quand vous avez pris le repas du Seigneur et que vous repartez dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, ce repas, il a toujours un effet sur vous. Il agit, mais à un moment donné, il faut y revenir. C'est comme dans le couple. Si on est éloigné trop longtemps, il y a des choses dans la relation qui s'étiolent. On ne se connaît plus très bien. Il y a d'autres choses qui se sont mises entre nous. C'est pour ça que c'est important de revenir régulièrement, mais pas de revenir chaque ab. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on vient prendre la Sainte Cène? Est-ce qu'on vient juste consommer? Est-ce qu'on vient juste au cas où? Est-ce qu'on vient juste soulager notre conscience? Moi, j'ai un collègue qui est musulman, qui ne pratique pas. Il y a plein de choses qu'il fait que les musulmans ne font pas. Mais il y a des choses où il a la trouille. Parce qu'il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Il a perdu un membre de sa famille dans des circonstances très difficiles. Il a vécu des choses qui l'ont vraiment secoué. Du coup, maintenant, il fait le ramadan. Parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas une conviction. C'est juste parce qu'on ne sait jamais. Donc, il ne sait même pas exactement pourquoi il le fait. Ça, c'est chakab. Si vous venez prendre la Sainte Cène parce qu'on ne sait jamais, ça ne va pas amener grand-chose. Mais si vous venez prendre la Sainte Cène, yada, parce que vous savez qui est votre Seigneur, parce que vous vous donnez à lui, parce que comme l'ange Gabriel, vous vous tenez par histémie devant le Seigneur, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » C'est autre chose. Et là, vous commencez à porter du fruit. Mais pas seulement porter du fruit, vous-même, vous allez grandir. Jésus va se faire chair en vous, sa parole va se faire chair en vous. Jésus va se répandre en vous, il va demeurer en vous. Et ça va vous transformer, ça va élargir votre vision, ça va élargir votre dimension spirituelle. Il faut persévérer dans l'intimité avec Jésus. Alors, persévérer dans l'intimité avec Jésus, ça commence pas forcément là. Mais ça commence dans sa présence. Ça commence à genoux devant lui. Et quand je dis à genoux, ça peut être à genoux physiquement, ça peut être à genoux au niveau de l'état d'esprit. C'est ça le plus important. C'est un temps où on ferme sa porte, on éteint son téléphone, on prend un temps de qualité avec le Seigneur pour répandre son cœur, mais pour se mettre à son écoute. C'est des temps d'intimité où on se replonge dans sa parole et où on commence à prendre les choses d'une manière prophétique, dans la foi, pour que sa parole se fasse chair en nous. Et selon ce qu'on vit dans nos temps d'intimité avec le Seigneur, des fois c'est aussi des temps de combat, des fois c'est des temps de décision, des fois on a besoin d'une guérison, on a besoin d'une solution. Et quand on en arrive là, au moment de la prière, on peut aller le sceller avec son repas. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre le dimanche matin pour sceller ces choses. La Sainte Cène, le dimanche matin, ce qui est super important, c'est qu'on est un corps et que c'est tous ensemble qu'on témoigne qu'on est le corps de Christ et qu'on a besoin les uns des autres. Mais à la maison, cette dimension-là, elle n'y est pas. Par contre, on vit les choses autrement, on a plus de temps. Et c'est seul avec Dieu, ou alors en couple ou en famille, mais il y a des temps d'intimité, on est seul avec Dieu et on peut sceller ce qu'on vient de vivre. Parfois, on a besoin de prendre la Sainte Cène aussi comme protection. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pris la Sainte Cène avant de partir au travail, et c'est loin d'être fini, parce que j'ai besoin d'avoir le sang de Jésus sur moi avant de m'engager dans la mêlée. Je sais ce qui se passe. Quand j'arrive dans mon service, voilà, j'ai besoin du repas du Seigneur et je vois l'effet. Mais je ne peux pas le prendre une fois tous les deux semaines et puis être complètement renouvelé à bloc chaque jour. Moi, j'ai besoin d'y revenir souvent. Et c'est à chacun de comprendre de quoi vous avez besoin. Cette intimité avec le Seigneur, elle est offerte. Elle est désirée par le Seigneur. Ce n'est pas un devoir. C'est une aspiration. Pour moi, ce n'est pas un devoir de m'approcher de mon mari. C'est plutôt des fois long quand il est à Mada, par exemple, et puis que moi, je suis ici pendant un mois. Mais même, il y a des fois, je suis au travail et tout à coup, je me dis, oh, je m'ennuie, j'aimerais bien rentrer à la maison. Enfin, je m'ennuie. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais mon état d'esprit me dit, j'ai envie d'être ailleurs. Mais c'est ça avec le Seigneur, c'est que je peux être au travail et j'ai tellement envie d'aller prier. Je ne peux pas, j'ai autre chose à faire, mais j'ai tellement envie d'aller prier, j'ai tellement envie d'aller le louer. Alors je sais que quand je vais sortir du travail, là, c'est libre, le champ est libre, je vais dans ma chambre, je ferme la porte, j'éteins mon téléphone et je passe du temps avec le Seigneur. C'est parce que j'en ai envie, c'est pas parce que je dois le faire. Je ne vais pas allonger parce que je crois que je pourrais continuer longtemps. Mais souvenez-vous de l'ange Gabriel qui se tient devant Dieu. Il se tient devant Dieu parce qu'il s'offre à Dieu. Mais le fait qu'il est devant Dieu, il le voit vivre, il le voit agir, il le voit réagir. Et il connaît sa pensée, il connaît sa volonté et il est mis au courant de ses projets. Et alors, l'ange Gabriel, puisqu'il est dans une position où il s'offre, il participe à ses projets et Dieu l'envoie en mission. Gabriel, il va remplir sa mission. Il n'échoue jamais. Il remplit sa mission parce qu'il est tellement revêtu du Seigneur, parce qu'il a tellement passé du temps vers lui. Et ensuite, il revient vers le Seigneur. Il se tient devant Dieu. Et là, Dieu voit qu'il peut avoir confiance en lui et il le revêt encore et il l'envoie pour une autre mission. Et c'est exactement la même chose qu'il veut faire avec nous. Je vais laisser Alain reprendre le temps qui va suivre. On va justement partager ce repas. Et moi, je vous encourage à encore fermer les yeux et déjà juste maintenant dans votre esprit à vous présenter devant Dieu et posez-vous cette question. Seigneur, est-ce que je te connais? Et Seigneur, est-ce que tu me connais? Saint-Esprit, apprends-moi à passer du temps dans la parole qui soit spirituelle, prophétique. Viens faire en sorte que cette parole se fasse chair en moi. Saint-Esprit, donne-moi un esprit de révélation qui me fasse comprendre ces choses, qui me fasse aimer passer du temps dans la prière, qui me fasse voir prophétiquement que je suis utilisable. Je crois que c'est un moment de faire un engagement devant Dieu. C'est un engagement de vous dire, mais oui, moi j'ai envie de comprendre quelque chose de plus dans mon intimité avec le Seigneur. Je suis reconnaissante de ce que je vis déjà. Mais j'aimerais passer à l'étape suivante, au palier supérieur. Prenez ce temps pour vous et pour le Seigneur et décidez ce que vous allez mettre en place une fois que vous serez rentré chez vous. Amen.